Une vie, une œuvre, bonjour et merci d'être avec nous pour cette émission, aujourd'hui consacrée à celui que l'on appelait le Grand Jacques. Né le 8 avril 1929 en Belgique et mort le 9 octobre 1978 à Bobigny, à l'âge de 49 ans, Jacques Brel est considéré comme l'un des plus grands interprètes de la chanson française. Au-delà du chanteur, l'homme Jacques Brel est souvent ressenti par son public comme un artiste percutant, sensible et généreux. Ses textes et ses nombreuses interviews le présentent comme un homme peu banal qui attire par son talent d'artiste, mais aussi par ses qualités de cœur, par ses provocations, ses pirouettes et ses formules. Dans le sillage de sa vie, il reste l'homme qui bouscule chacun pour le convaincre de vivre sa vie. Il dira lui-même « Ce qui compte dans une vie, ce n'est pas la durée d'une vie, c'est l'intensité d'une vie ». Jacques Brel, un homme de départ et d'évasion, qui regarde demain comme son prochain voyage. Et bientôt, tout devient vite une occasion de partir, de décoller, de larguer les amarres.
Jacques Brel, l'inaccessible étoile. Par Lenora Krief et François Test.
Au port d'Amsterdam, il y a les marins qui les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam.
Pour moi, Brel est l'interprète qui m'a le plus fasciné. En tout cas, tous les interprètes que j'ai vus, il a créé à l'Olympia Amsterdam, mais ce que j'ai vu ce soir, là, je ne l'ai jamais vu avec personne.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames, aux premières.
C'est cette puissance, cette force, cette détermination, cette volonté de y brûler devant nous, quoi. C'était vraiment ça. On avait l'impression d'assister à quelqu'un qui brûlait. Puis la façon dont il monte à Amsterdam. Et là, j'ai vu des gens, mais dans un état, ils ne savaient plus où ils étaient, quoi. Le public ne savait plus où il était.
Viens! Il me reste 3 sous, on va aller se les boire.
Et quand il a chanté Jeff, un peu plus loin, dans le tour de chant, à un moment donné, il dit. Viens avec les en tendant les bras comme ça, et je voyais le public qui esquissait un geste, ils s'avançaient vers l'avant en faisant un geste, ils allaient vers lui, quoi. C'est-à-dire que viens, et ils venaient, quoi. C'est incroyable. Ça, j'ai vu chez aucun chanteur.
On chantera comme avant, comme quand on était jeune, Jeff. Comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent.
Il y a eu l'interprète dont nous parlait Serge Lama. Mais Jacques Brel était aussi metteur en scène, comédien, réalisateur, navigateur. Alors lequel choisir? Et que dire encore d'une icône dont on a tant parlé? Avec une énergie prodigieuse, Jacques Brel imposa sa personnalité hors du commun. Ivre de lui-même et des autres, il mena une vie intense, une vie d'aventure, une vie à 1000 temps. Le plaisir, Jacques Brel le trouvait dans le mouvement, les voyages, les fugues, ou encore lors des longs déplacements en voiture avec les amis musiciens. Ce goût pour la mobilité, il l'explorait jusqu'en pleine création de son œuvre. Comme Montaigne qui avait besoin d'agiter ses jambes pour penser, Jacques Brel travaillait ses textes debout. De sa Belgique natale, où il rêvait d'ailleurs, jusqu'aux Marquises, où il repose face à la mer, le jeune troubadour n'a cessé de chercher sa terre promise. Après la fougue, Jacques Brel laisse un silence, le silence qu'il redoutait tant, et encore aujourd'hui, on se demande où puisait-il ce supplément d'âme qui en fit un créateur d'exception.
En réalité, j'ai eu une enfance où il ne se passait presque rien. Il y avait un ordre établi, assez doux. C'était pas rugueux du tout, c'était pas dur du tout. C'était paisible et forcément morose. Oui, trop, bien sûr. Enfin, ça ne le sait qu'après. J'étais fils de bourgeois, mais ça aussi, je ne l'ai su que longtemps après, puisque pendant la guerre est arrivée au moment où j'aurais dû me rendre compte que j'étais fils de bourgeois, et la guerre a fait que qu'il n'y avait pas plus de fils de bourgeois que d'autres choses. On était surtout soi-même pendant la guerre. Donc j'ai su que j'étais fils de bourgeois que très longtemps après. Mes parents étaient assez âgés.
Vous étiez le seul enfant?
Non, deux. Mais mon frère est toujours plus âgé que moi, donc il y avait assez peu de... contact. Et il y avait des valeurs mises en avant, enfin des valeurs que eux respectaient infiniment et qui ne m'intéressaient pas. Il y avait une valeur d'argent certainement qui dominait tout ce milieu. Mais ça aussi, je ne l'ai su que longtemps après. À 11 ans, c'est absolument rien de tout ça. Je trouvais ça triste. Et je trouvais ça sans imagination.
Mon enfance passa grisaille en silence de fausse révérence en manque de bataille.
Jacques Brel a souvent décrit son enfance comme morose, ennuyeuse. Quel est votre sentiment à vous, France Brel, sur cette période de sa vie ?
En fait, quand mon père parle de son enfance, c'est vrai qu'il a plutôt tendance dans les interviews à résumer la situation par ce mot morose. Et en fait, ce morose, c'est surtout le mot ennui. Il ne se passait pas grand-chose. Mais c'était pas triste du tout. Et ben, il est comme tout le monde, il y a des choses qui l'ennuient et il est quand même, depuis le départ, je dirais Brel, même gamin. C'est-à-dire qu'il rêve, c'est-à-dire qu'il a de la joie, c'est-à-dire qu'il a une soif de vivre, de découverte, d'une envie d'aventure profonde. Et tout ça se passe en lui parce que rien de tout cela ne se passe à l'extérieur. Et j'aime bien insister sur le fait que Jacques est un enfant qui va arriver sur le tard dans le couple des Brel, ses parents. Il arrive sur le tard et son père, bien avant la naissance de Jacques, était un aventurier, était un explorateur. Et donc son père est un homme qui a vécu des choses extraordinaires. Et Jacques est fasciné par ce père et son père, qui se prénomme Romain, va transmettre à ses deux fils d'ailleurs, à Jacques et à son frère aîné Pierre, cette envie de l'aventure.
Brel avait des relations assez particulières avec son père, ça c'est incontestable.
Édith Sibylski.
Il disait, mon père, dans une chanson, il dit « Mon père était un chercheur d'or, l'ennui c'est qu'il en a trouvé ». Ça résume tout. Son père, le père de Jacques Brel, a été un grand aventurier dans la mesure où en 1909, il faut se rendre compte de ce que c'est, il a pris le parti de partir en Afrique. Et puis, il est devenu immensément riche. Il travaillait pour une société d'import-export qui lui a donné un poste de direction à Bruxelles. Donc, il est revenu en 1928. Et Brel est né en 1929. 1928, évidemment, c'est la veille de la grande crise économique de 29. L'import-export est en première ligne, c'est la catastrophe, il perd tout ce qu'il avait. Et puis, il reconstruit avec son beau-frère une entreprise de cartonnerie qui va aller jusqu'à employer 300 personnes. Mais clairement, le grand aventurier de l'Afrique, il est échaudé parce qu'il lui est arrivé au début des années 30 et il a plus envie de perdre ce qu'il a regagné depuis et il va devenir un homme prudent. Et ça, la prudence, Jacques Brel, c'est ce qu'il déteste par-dessus tout. Et il dit, moi, je veux pas le ressembler, je veux pas ça. Son père l'a emmené un jour à la cartonnerie, à cette cartonnerie qu'il dirigeait, et il lui a montré un bureau, et il a dit, voilà, ça, c'est le bureau où tu passeras ta vie. Et il dit, pour moi, enfant, c'était une horreur de me dire que tous les jours de ma vie, j'allais être dans ce bureau. Lui, il a vécu comme une véritable horreur. Je pense qu'il a eu ce combat pour échapper à ce destin prédestiné.
L'enfance, il est midi tous les quarts d'heure, il est jeudi tous les matins, les adultes sont déserteurs, tous les bourgeois sont des indiens.
Vous racontez dans votre ouvrage, auteur, que Jacques découvre les vraies amitiés après son renvoi du collège, en décembre 1946. Et il rencontre à ce moment-là les membres de la Franche Cordée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe qu'était la Franche Cordée ?
Alors la Franche Cordée est un mouvement de jeunesse qui est né ici à Bruxelles pendant la guerre. C'était très difficile. Tous les mouvements scouts avaient beaucoup de difficultés avec l'occupant. Et puis il y a un jour un homme qui s'est rendu compte qu'il y avait toute une jeunesse qui traînait un peu dans la rue, on va dire, qui ne savait pas quoi faire. Et il s'est dit, moi je vais m'en occuper. Ce monsieur c'était Hector Brendongs. Et ce monsieur a joué un rôle fondamental dans la vie de Jacques. Il a créé la Franche Cordée. Et la Franche Cordée a été l'éclosion du sentiment de l'amitié chez Jacques. Ces deux hommes se ressemblent, bien sûr, il y a une génération entre eux, mais ils se comprennent, ils ont la même fougue, ce sont des idéalistes, ce sont des gens entiers, ce sont des gens qui rêvent, ce sont des gens qui ont envie de bâtir. Et voilà que Jacques, qui vient de se faire renvoyer du collège, et qui évidemment, à la maison, c'était pas la fête, tout d'un coup, il est face à un homme, il parle de ses problèmes, et l'autre a confiance en lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jacques est arrivé sur le tard chez mes grands-parents. Et donc, les parents de mon père sont, je dirais, un peu plus fatigués par la vie. Alors que Hector, on dirait qu'il a encore 25 ans, tellement il a d'énergie et de la fougue. Et Jacques lui dit, mais alors, vous seriez d'accord si ici, je présentais une pièce de théâtre que je viens d'écrire? Et Hector dit oui. Et Jacques est fou de joie. Et ces jeunes qui étaient là, autour de lui, a en fait représenté son premier public.
L'aventure commence à l'aurore. À l'aurore de chaque matin, l'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin.
Édith Chmielski, vous êtes auteur de La valse à mille rêves, une biographie sur Jacques Brel. La déception chez lui est apparue jeune lorsqu'il découvre l'adultère de ses parents.
Ce sont des choses... Le fait que je ne suis pas certain qu'il ait été exceptionnellement bouleversé par le fait... Lui, en tant que personne, par le fait que son père ait une maîtresse, je pense qu'à ce moment-là, il ne mesurait pas totalement de quoi il s'agissait. Ce qui le bouleversait, c'était de voir sa maman malheureuse. Dans le cas de la maman, c'est un peu différent, puisque... Il ne parle pas non plus d'un bouleversement dans sa vie. Le fait est que ce qui était c'était plutôt dans ses valeurs religieuses, puisque le personnage en question, l'amant en question, était un de ses professeurs, pas prêtre mais clerc. C'était quand même un homme qui appartenait au clergé. Ce qu'on lui avait appris à l'école ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il voyait, à ce qu'il vivait dans la vie, notamment par le biais de cette aventure que sa maman a eue.
Quand ma maman reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand elle reviendra, maman, qui c'est qui sera content? C'est moi. Elle reviendra comme chaque fois, à cheval sur un chagrin d'amour. Et pour mieux fêter son retour, toute la sainte famille sera là.
Lui était très proche de sa mère. Et lorsqu'ils étaient seuls tous les deux dans la maison, puisque son frère avait 5 ou 6 ans de plus que lui, donc il travaillait dans la cartonnerie, donc il partait avec le père, donc Jacques Brel se retrouvait seul avec sa mère, et là ils ont eu des jeux qui ont certainement compté pour beaucoup dans la vocation artistique de Jacques Brel, puisqu'il jouait, il faisait des rôles de théâtre, soit seul à la maison en se déguisant. La passion du déguisement, c'était Adolf Hitler à l'époque, ou bien Charlie Chaplin, ou alors en faisant des facéties dans le quartier. Une fois, sa maman l'a emmené, l'avait grimé pour qu'il ait l'air complètement blessé, avec le bras en écharpe, des coups sur le visage, et ils ont fait le tour des commerces du quartier pour aller faire les courses, les commissions, et les achats et tout ce qu'on veut, et tous les commerçants étaient sidérés en disant « pauvre garçon », et puis on rentre à la maison, on efface tout ça, on se fait bien beau, et on refait le tour des mêmes magasins avec un Jacques Brel en pleine forme et les commerçants qui n'y comprennent plus rien. Ça, c'est le genre de truc qu'il faisait. Et dans les chansons de Jacques Brel, il y a ce côté facétieux dans beaucoup de chansons, pas dans toutes, évidemment, vous trouverez pas ça dans Ne me quitte pas, mais dans Bruxelles, dans Madeleine, dans dans Titine, dans les bonbons, ce côté-là apparaît sans aucun doute, et il apparaît encore beaucoup plus dans ses films, dans les films qu'il a réalisés, parfois même dans les films où il est comédien, dans Mon oncle Benjamin, dans L'emmerdeur, dans... Enfin, il y a pas mal de films quand même, dans L'aventure, c'est l'aventure, où là, en plus, Claude Lelouch est quelqu'un qui lâche ses comédiens, donc là, Brel a pu se lâcher, et on retrouve le Jacques Brel de l'école primaire, hein, avec... La séquence à un moment donné, il pilote un bateau en disant on va aller je ne sais plus quel nom de cette ville, mais à Wakanaku, et puis il commence à jouer là-dessus, et les autres suivent. Ça, c'est du vrai Jacques Brel, ça, comme il était dans la vie.
Un jour sur la mer, il m'envoie, un jour sur la mer, il m'envoie, le marinier qui m'y menoie,
on est où là? Montre-moi, on est où là?
Là, on est
là. Voilà.
On est là.
Bon, et on va où?
On va là. À Aknanewawa.
Il y a un aéroport là.
À Aknanewawa? Il y a un petit terrain.
Bon, alors, Anna machin là, comme tu dis, Aldo, Poupoun et Shkap, l'avion. Parce que moi, à vos vacances, je te garantis, je n'en veux
pas. Oui, mais c'est pas une raison pour descendre à Aknanewawa.
Qu'on est devenu. Mais tu veux vraiment, t'en as pas main? Regarde, regarde-le comme un malade.
C'est toujours à la Franche Cordée qu'il rencontre Mich, votre mère. Ils étaient camarades au début de leur relation.
Oui, ma mère est à la Franche Cordée avant mon père. Ma mère a un tempérament très 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 discret, plutôt taciturne, pas du tout excentrique comme Jacques. Et en fait, la première fois qu'elle le voit, elle ne le supporte pas. Et ma mère était dans le groupe divertissement. Mais à l'arrière, elle organisait la logistique de tous les spectacles. Et très vite, mon père, lui, va présenter des spectacles, puisqu'il va présenter des petites pièces de théâtre, il va présenter ses chansons. Et ma mère m'a souvent expliqué, c'était très important de créer un couple qui avait en fait commencé sur base d'une amitié.
Quand il est parti à Paris en 1953, il avait déjà une fille et demie, puisque France est née cette année-là, en 1953. Vivant sans sa femme à Paris, il a cédé à la tentation une première fois, ce qui lui a posé énormément de problèmes de culpabilisation, parce que comme il était de culture très catholique, il avait le sentiment de vivre au plus profond du péché. Il a avoué, elle lui a pardonné, puis un an plus tard, lors d'une tournée entre artistes, rebelote, c'était Suzanne Gabriello cette fois-ci, et là il en était quand même très 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 épris, il en a parlé à Mich, et ils ont pris une décision qui était de ne jamais divorcer, de toujours rester marié, mais elle l'autorisait à avoir une double vie. Donc pendant toute sa vie pratiquement, Jacques Brel a eu une femme à Bruxelles qui a toujours été la même et une femme à Paris, et là il y en a eu plusieurs qui se sont succédés.
C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté face au curé qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux.
Quand Jacques part à Paris, son ambition est très simple. Il a envie de vivre comme Francis Lemarque.
France Brel.
Francis Lemarque est un monsieur qui écrit beaucoup de chansons pour les interprètes à l'époque dans les cabarets, qui chante lui aussi un peu, pas trop, et qui arrive à vivre gentiment de ce métier. Donc mon père a envie d'être un auteur de chansons, et pas du tout un chanteur. D'ailleurs, il n'a jamais appris à chanter. Et il part à Paris pour offrir ses textes. Et personne n'en veut. Et comme personne n'en veut, il est obligé de les chanter lui-même. Et il chante très mal. Et donc, c'est pas facile. Il y a une personne qui l'a soutenu, c'est Georges Brassens.
Grand prix du disque 1957, accompagné au piano par François Robert, voici de retour aux Trois Baudets, Jacques Brel.
Écrite en faux français, sur un rythme de sardane, voici la bourrée du célibataire.
ce théâtre des Trois Boudets, mais on y venait pour rire. Une des vedettes du lieu à l'époque était Dary Cole. Alors, lorsque Brel a commencé, dans cette, il y avait une pièce, la pièce de théâtre, c'était avec Dary Cole, qui était l'amant d'une femme mariée, dans la cuisine. Le mari rentre, Dary Cole se cache sous la table, le mari voit un cigare sur la table et commence à soupçonner son épouse et lui dit « C'est quoi ce cigare ?» Elle dit « Je ne sais pas. Tu vas me dire d'où vient ce cigare ?» Et puis il y a une voix en dessous de la table qui dit « De la Havane, monsieur. » Ça, c'est l'humour qu'on pratiquait aux Trois Baudets. Et dans ce contexte-là, Brel vient avec des chansons du style « Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu ? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. » Ça change du cigare de la Havane hein, et du mari trompé par un type qui est sous la table. Et manifestement, les gens ne venaient pas aux Trois Baudets pour écouter ça. Ça n'en... le verrien au fait que Canetti considère que Brel était pourri de talent. Donc il a dit, je te retire de l'affiche parce que si tu te casses la figure tous les soirs pendant 2 mois, tu changes de métier. Donc on te retire de l'affiche, je te donnerai une autre chance plus tard, on va retravailler et tout. Et notamment, il y a eu cette expression qui est arrivée, qui n'a pas été inventée par Brassens, par un de ses copains, mais que Brassens a reprise avec tous les gens de la bande, qui était l'abbé Brel. Et Brel était furieux quand il entendait ça, il détestait. Mais c'était une manière de lui dire, fais gaffe parce que tu prends une mauvaise direction.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour.
Jacques rencontre Suzanne Gabriello en tournée avec les tournées Canetti à ce moment-là. Et bon, ben voilà, il y a une passion qui naît entre eux. Il rit beaucoup, il s'amuse beaucoup. Mais Suzanne Gabriello est déjà un peu connue. À ce moment-là, elle a donc ce numéro qui s'appelle « Les filles à papa » avec deux autres artistes. Son père, Gabriello, est connu aussi, donc elle connaît un peu le métier. Elle soutient Jacques énormément en disant « Écoute, tes belles idées, c'est bien, c'est sympathique, tes valeurs, d'accord, mais tu sais, si tu veux gagner ta vie, il faut apporter de l'amour, genre, faut pas toujours les secouer, les insulter, parce qu'à un moment donné, c'est pas toujours simple. » Et c'est elle qui me l'a raconté. Et donc, Jacques fait « Attends, c'est hors de question, tu veux quand même pas que je fasse un slow, il est hors de question qu'on danse sur mes chansons, non. » Et donc, je crois qu'un jour, il s'est dit « J'ai quand même essayé de faire une chanson d'amour, mais c'est très difficile pour lui de faire une chanson d'amour parce que il vit comme un éternel amoureux de la vie. Donc, c'est quoi une chanson d'amour ?» Et puis un jour, il raconte qu'il écrit cette chanson. Et donc, si on observe bien la structure de l'écriture de la chanson, ça commence par notre amour.
En simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour. Un chemin.
Avec cette chanson, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a tout qui est là, puisque cette chanson va partir comme un zoom, donc bien serré sur l'amour d'un couple, et que, en fait, ça va éclater jusqu'au monde entier, et en plus soutenu par un crescendo. Et là, il, pour la première fois, il voit que ce crescendo lui apporte quelque chose. Et je suis convaincue que... Encore une fois, c'est Suzanne Gabriello qui me l'a raconté. Un jour, personne ne connaissait cette chanson, il venait de la terminer, et il chante cette chanson, il se lance dans l'interprétation avec tout le trac qu'il pouvait avoir, et là, me dit-elle, ce soir-là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose dans la salle. Et pourquoi il s'est passé quelque chose? Parce que Jacques a découvert quelque chose d'essentiel dans la vie, pour tout le monde. C'est que dans l'interprétation de cette chanson, il s'est oublié. Il a compris qu'il y avait au fond de lui cette capacité à tout dépasser et à prendre le risque de se présenter sans aucune armure face au public. Et ça, c'est capital. Et ça, c'est Gabriel.
Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Alors, première photo.
Simone Langlois.
en Afrique du Nord. D'ailleurs, c'est marqué Frère Jacques, François Robert, Raymond Davoise, à Alger, 1960-1961. C'est encore plus vieux. Là, me voilà, les frères Jacques.
Il est où, Jacques Brel ?
Guy Béard et Jacques Brel. Vous le voyez ?
Le seul qui est assis.
Vous le reconnaissez ? François Robert, derrière. Alors, voilà Jacques et moi.
Alors là, c'était où ? À Paris ?
Oui, au Sacré-Cœur, juste derrière. Au Sacré-Cœur, voilà la même photo. Non, pas la même, une autre photo en plus grand. Vous voyez le Sacré-Cœur derrière ?
Vous teniez la main ?
Oui, ah ben oui, bien sûr. J'étais son interprète, il était mon auteur. Il était jeune, hein ? Voilà.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout de s'oublier.
Jacques Canetti, il avait deux types d'artistes. Il avait les auteurs-compositeurs, déjà à l'époque, c'était une nouvelle race. Et alors, il avait des interprètes. Et il aimait bien faire chanter par ses interprètes les chansons de ses auteurs-compositeurs. Ça, c'est une stratégie qui était assez... Et alors, cette petite Simone Langlois, elle était jeune à l'époque, et elle faisait partie de la tournée. Et effectivement, les chansons de Jacques Brel n'étaient pas connues, n'étaient pas célèbres. Et il se disait qu'avec une autre interprétation par une femme, ce qui est quand même très différent, ça pourrait donner un avenir différent à la chanson. Et le fait est que, on va parler de Ne me quitte pas, Simone Langlois a été la première à l'enregistrer. Avant Jacques Brel, elle en est très fière, d'ailleurs, elle a raison.
L'amour sera loi, où tu seras. Je serai reine, ne me quitte pas.
Je suis très heureuse d'avoir connu Jacques Brel parce que c'était quand même un grand artiste. Un grand artiste. Avec les tripes, avec le talent, l'écriture, formidable. Au point de vue homme, quand je l'ai connu, il sortait d'un chagrin épouvantable. C'est d'ailleurs la raison de l'écriture de Ne me quitte pas. Qu'il avait eu avec Suzanne Gabriello. Jacques, le souvenir énorme que j'en ai, c'est que primo, il buvait beaucoup de bière, secondo, il fumait beaucoup, tertio, il était à la fois misogyne et amoureux. Il était complexe, attention, très complexe. Il était fou d'amour pour Suzanne Gabriello, il était d'une fidélité morale, hein, pas, pour sa femme et ses enfants. C'était un... Il était complexe, comment vous dire. Il avait un caractère particulier. Il était sûr de ce qu'il disait. Quand il disait quelque chose, il avait raison quand même. Il était hableur, il parlait, il s'écoutait même parler. À mon avis, il s'écoutait parler. Mais en tant qu'homme, uniquement en tant qu'homme, il ne m'aurait pas convenu. À l'époque. Maintenant, en tant qu'intellectuel, en tant qu'artiste, il était extraordinaire.
Son premier disque est un 78 tours enregistré à Bruxelles avec deux chansons, comme tous les 78 tours. Puis il fait un album en 53, puis un autre en 55 et un autre en 57-58. Enfin, là, il y a Quand on a que l'amour, donc en 57. Le printemps l'année suivante, qui est un demi-succès, mais qui est une petite chanson bondissante, sympathique, et qui n'est pas entrée dans la postérité. Et puis, tout d'un coup, un album dans lequel il y a quatre chansons immortelles. Le succès, d'ailleurs, quand l'album de 59 est sorti, ce n'était pas Ne me quitte pas. Ne me quitte pas est devenue la chanson immortelle, la chanson porte-drapeau, la chanson emblématique. Mais le succès, c'était la valse à mille temps.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois et Paris.
Pour vous, le succès de ce 33 tours qui sort en 1959, c'est notamment grâce à François Robert, son arrangeur, qui lui a conseillé de lâcher sa guitare.
Sa rencontre avec François Robert est déterminante, sans aucun doute. Donc François Robert est un pianiste, jeune, toujours étudiant au conservatoire, parce que son truc c'est la musique classique, et il est toujours étudiant, et comme il est de province et qu'il habite à Paris, ben, il lui faut des sous pour vivre, et pour avoir des sous, ben, il joue dans les cabarets. Et comme Brel, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais est un amoureux fou de la musique classique, les chanteurs ça l'intéresse pas, lui son truc... C'est la musique classique, il se plonge là-dedans du matin au soir. Ben, fatalement, ça fait un atome crochu avec François Robert. Et comme au cours de ses tournées d'été, ben, ils voyagent en voiture, ils vont rapidement faire la route ensemble, devenir les meilleurs amis du monde. François Robert va pouvoir lui dire le fond de sa pensée. D'ailleurs, il le fera pendant toute sa vie, d'ailleurs. Et il va lui dire, écoute, il faut que tu lâches ta guitare. Laisse-moi faire, je t'accompagne. Garde ta guitare pour le plat pays et pour quand on a que l'amour. Et pour le reste, comme il disait, tu te débarrasses de ce meuble qui t'encombre le ventre. Et puis ça a été une des grandes fiertés de François Robert, parce que c'est vrai que ça a libéré Brel scéniquement. Les fameux jeux de mains de Jacques Brel sont célèbres. Bah, s'il avait sa guitare, il n'aurait pas pu les faire. C'est aussi simple que ça.
Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On prie. Il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux.
Entretien avec Dominique Herban, France Culture, 1967.
Et une chanson, c'est fait non pas pour être chantée, c'est fait pour être dans mon petit monde à moi, c'est fait pour être racontée.
Avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto.
Et si tout mon corps n'aide pas ce texte, c'est pas une chanson. C'est un petit truc écrit, plus ou moins habile, plus ou moins adroit, plus ou moins raté, avec une petite musique. Vous comprenez, si par malheur un jour on lit Rimbaud et on écoute Debussy ou Ravel, on ne peut plus sérieusement croire qu'une chanson est quelque chose de joli. Il faut qu'au-dessus de cette chanson se mêle un corps, une chair, enfin, et qui doit éclater pratiquement jusqu'à tomber. Enfin, si l'acte d'amour n'est pas suivi d'un énorme épuisement, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et un tour de chant, s'il n'est pas suivi d'un énorme épuisement, c'est peut-être qu'on fait admirablement un métier, et c'est sûrement qu'on ne les aime pas.
Jacques a des valeurs, il y tient et il est hors de question qu'il ne les respecte pas. Quand il arrive à Paris et qu'il se rend compte qu'il y a des jeux de pouvoir, que les maisons disent que c'est cela, que l'ambiance autour de la taille du nom des artistes sur une affiche, c'est très important et que les gens se disputent pour ça, il a l'impression d'être sur Mars, lui. Quand il se rend compte qu'il y a des tas de gens qui sont tellement accrochés à l'argent et qui ne parlent que de ça, il ouvre des yeux pas possibles. Ça ne fait absolument pas partie de sa conscience, et jusqu'au bout.
Jean-Marie Favière.
Pour Brel, les valeurs fondamentales, c'est évidemment l'amour, la tendresse, la compassion. En ce sens, il se voulait résolument de gauche. N'oublions pas que son ami, et il a été détruit à sa mort en 1974, c'était Georges Pasquier,
Jojo.
Et il lui a fait la chanson Jojo, était communiste, et ils avaient tous les deux des querelles, mais des querelles allant un peu dans le même sens. Et dans sa bibliothèque, Brel avait accumulé des tas d'ouvrages sur le stalinisme, sur le communisme, etc., pour pouvoir titiller un peu Jojo.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo, avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient...
Et vous êtes riche?
Non.
T'avais peur d'être riche?
Oui, d'être installé. Oui, je n'aimerais pas ça du tout parce que...
Extrait de Radioscopie de Jacques Chancel, 1973.
Le pouvoir rend idiot et le pouvoir absolu rend absolument idiot, comme disait l'autre. Et puis l'argent, c'est la même chose. Les gens qui ont de l'argent ne pensent qu'à l'argent qui leur manque. C'est très terrifiant, ça. Et puis ça, l'argent fige les hommes, les rend immobiles. Or, un homme, c'est fait pour être mobile. Ça, je suis sûr de ça. Je suis incapable de vous le prouver, mais je suis sûr de cela. Un homme, c'est fait pour bouger, c'est pas fait pour s'arrêter. C'est fait pour continuer, pour mourir en mouvement, éventuellement. Mais ça n'est pas fait. Tout le malheur vient de l'immobilité, toujours.
Jean-Marie Favière, vous êtes professeur de lettres au lycée Édouard Vaillant de Vierzon, et vous avez défriché l'œuvre de Jacques Brel pour mieux en révéler les intérêts et les beautés. L'ennui revient souvent dans les textes de Jacques Brel. C'était une de ses plus grandes peurs, de s'ennuyer.
L'ennui, oui. Et Brel a fait une chanson, « Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient ?» C'est en 1963, et dont le thème est profondément pascalien. Évidemment, l'homme dans sa chambre, etc., en proie à l'ennui, et qui a besoin du divertissement, c'est un thème profond chez Brel.
Vous parliez de Pascal et vous dites dans votre étude, l'immobilité lui évoque ce mot de Pascal suivant lequel notre nature est dans le mouvement, le repos entier et la mort. Donc de l'évocation de la mort du corps à celle de l'esprit, vous dites qu'il n'y a donc qu'un pas pour Jacques Brel.
Jacques Brel ne tenait pas en place, il se définissait comme un nomade et ça nous mène toutes sortes de thèmes. Hein. L'enfant est quelqu'un qui veut bouger. C'est quelqu'un qui aimait, adolescent, aller avec ses copains sur la côte. Voilà. Il rêvait de voyage. Et c'est pas étonnant si dans la continuité, il a fait un tour du monde en bateau et s'il a appris à piloter jusqu'à un haut niveau de performance. Alors, Brel, oui, il était tout le temps en mouvement de ce point de vue-là. Et il fallait que le corps réponde. C'est-à-dire que c'est la scène, par exemple, aussi, qui est la pierre de touche d'une bonne chanson. Et puis aussi, il y a un côté qui rejoint le thème des femmes, hein, puisque pour Brel, l'homme est un nomade, mais la femme voudrait évidemment le garder dans la maison. Ce thème du mouvement, chez Brel, c'est consubstantiel à sa nature.
Alors l'homme s'arrête près d'une femme, et puis la femme a envie qu'on lui ponde un œuf, toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un œuf, et je comprends ça. Et puis on pond l'œuf. Alors l'homme, il est bien bon, il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante, je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de ce œuf, et alors il faut de la paille en dessous. Alors on met de la paille, l'homme il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'œuf. Et puis un jour il pleut, alors là, il va chercher de la paille et il fait un toit. Et puis après il y a des courants d'air, alors il bâtit des murs, et puis après il reste là.
Ne pensez pas. Jeune fille de maintenant, jeune fille, ne pensez pas enlever le cœur d'un galant, jeune fille, en enlevant vos bas. Distrayez donc, vieillard, collégien boutonneux, par l'offrante malhabile de charme renfloué, par vos cils allongés, vos battements d'yeux faites rêver, la nuit gâteuse et refoulée. Dans les bars de quartier, discutez politique, dites rose, dites blanc, montrez vos arguments, remplacez la culture par vos airs impudiques et l'esprit par vos cuisses et l'amour par l'argent. Faites rire et pleurer, ennuyez les garçons, faites sauter, tournez, dites oui, dites non. À force de jouer à cache-cache avec l'amour se cachera et vous jouera des tours. C'est un texte qui date du début des années 50, c'est 52-53.
C'est un texte, ne pensez pas, où on perçoit déjà très bien la méfiance de Jacques Brel vis-à-vis des femmes.
Je ne parlerai pas de méfiance. Je parlerai plutôt, comment dire, Jacques est mal à l'aise avec les femmes. Et pourquoi est-il mal à l'aise?
parce qu'il a l'impression, et le texte nous donne des pistes, c'est qu'en fait, une femme a des arguments, a des accessoires, les bas, les cils, et que donc lui s'est toujours dit, dès qu'il y a une femme, en tous les cas moi en tant qu'homme, je triche aussi. Elle m'incite à tricher.
Elles sont notre premier ennemi quand elles s'échappent en riant des pâturages de l'ennui. Les biches avec des cils comme des cheveux en accroche fin et seulement le bout des yeux qui te rient.
Brel est un personnage drôle. Dans la vie, il était très drôle avant la réussite.
Serge Lama.
Il était très drôle, il était très marrant, il faisait des numéros rigolos, etc., etc. Mais alors les femmes, c'était quand on touchait aux femmes. S'il y avait une femme à la table, il faisait tout pour qu'elle se tire. Des misogynes, pour dire les mots comme ils sont. Mais il a écrit pour moi la plus belle chanson d'amour misogyne que j'ai jamais entendue, qui s'appelle Les Biches, qui est une chanson sublime à la fois d'amour, une chanson qu'on peut dédier, qui peut quelque part être dédiée aux femmes, et en même temps, c'est une chanson misogyne.
Elles sont notre plus belle ennemie quand elles ont l'éclat de la fleur et déjà la saveur du fruit. Les biches.
On dit souvent je suis misogyne. Mais en réalité, on dit ça très souvent d'un individu qui n'est pas cavaleur.
Oh non.
Pourquoi vous dites oh non comme ça?
Non, parce que chez vous, c'est quand même très symptomatique. Vous méprisez les femmes, tout ce que vous avez dit pour le prouver.
C'est pas du mépris. Ça m'intéresse pas beaucoup. Pas du mépris.
Mais vous considérez que ce sont des individus différents de vous?
Ah, tout à fait. Mais alors, tout à fait.
C'est du racisme.
C'est relativement du racisme, oui. Enfin, je n'en suis pas à vouloir à espérer des camps de concentration dans les Landes où on mettrait les femmes. Dans les Landes ou ailleurs. Enfin. Dans les Landes, ça serait bien.
On se débarrasse beaucoup des problèmes breliens en disant contradiction. Brel la comprenait parfaitement. Et donc la misogynie, c'est encore une fois l'envers d'un très grand amour, au contraire, de la femme. Il avait tellement peur de sacraliser, de faire quelque chose d'énorme de cet amour qu'il sentait en lui, qu'il voulait s'en protéger. Et s'en protégeant, il a tendance à devenir agressif.
Mais les femmes, toujours, ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles, les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme.
Son défaut, c'est de les avoir trop idéalisées. Et là, c'est un défaut qu'il prête parfois aux femmes, de ne pas être à la hauteur des attentes des hommes. Mais dans ses moments de lucidité, il reconnaît que c'est bien lui qui n'a jamais rien compris aux femmes.
Et d'ailleurs, il le reconnaît dans sa chanson, Le Grand Jacques, où il se livre à une auto-dénonciation.
Alors, sur la guerre et aussi sur l'amour. Que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous? Tu n'en connais rien du tout. Donc, il y a toujours ce double mouvement d'aller y voir. Et en même temps, il a à l'intérieur de lui un critique qui le fait, comme au fond de son miroir la bêtise, prendre conscience que les leçons qu'il assène aux autres, il faut parfois qu'il se les donne à lui-même.
C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout.
Les relations de Jacques Brel et des femmes, dans son esprit, dans sa manière de voir les choses, ont toujours été influencées par le fait qu'il se croyait laid. Donc son truc, c'est de dire « Je n'intéressais pas les femmes quand j'étais inconnu, et maintenant que je suis célèbre, elles viennent à moi. » Dans sa vie au quotidien, il préfère la compagnie des hommes, parce que avec les hommes, on peut picoler, avec les hommes, on peut dire des gros mots, avec les hommes, on peut raconter des histoires salaces. Et il a du mal à faire ça avec les femmes parce qu'il place la femme sur un piédestal.
L'amour est mort, vive la haine. Et toi, matériel déclassé, va-t'en donc accrocher ta peine au musée des amours ratés. Comme un ivrogne, je partirai pour aller gueuler ma chanson. Et si jamais tu l'entendais, j'en remercierai le démon.
D'abord, la haine est un mot qui n'est pas très brillant, je dirais, c'est pas son univers. Mais quand même, au fond de lui, il a de temps en temps des coups d'éclat, des coups de colère. Et je pense que l'une de ses premières colères, c'est certainement l'ennui et l'amorosité dont on parlait un peu tout à l'heure. Et donc, cette chanson, c'est sa révolte à une éventuelle prison d'amour. On ne peut pas l'enfermer, Jacques. Jamais. Et personne. La haine, c'est éventuellement le sentiment qu'il pourrait vivre si quelqu'un l'empêche de partir. Il met en garde.
Il y a quand même... L'amour est mort, vive la haine. Et toi, tu pries, et toi, tu pleures. Les femmes sont des pleureuses, alors, pour Jacques Brel.
Oui, ça, il supporte pas. Ah oui, oui, non, ça, Jacques, une femme qui pleure, là... Parce que je pense qu'il était très, très, très attaché à sa mère. Et parfois, sa mère pleurait. Et pour des bonnes raisons. Sa mère a un jour appris que son mari avait une relation ailleurs et que ça l'a... Elle a eu envie de se suicider. Elle pleurait parce que l'homme de sa vie, tout d'un coup, allait voir ailleurs. Elle a perdu les jumeaux. Et ça devait être quelque chose d'épouvantable. On va pas épiloguer là-dessus. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Quand le frère aîné de Jacques, Pierre, part, quitte la Belgique avec des troupes de scouts pour fuir l'occupant en juin 40 et qu'ils n'ont pas de nouvelles, et sa mère pleure quand ils vont le conduire à la gare et que Jacques voit sa mère en larmes. Ce sont des images qu'on va retrouver dans la Colombe, dans le train de la Colombe, et ce sont des images que l'on va retrouver dans une chanson de la fin, qui est Mai 40, où il dit les femmes pleuvent. Et donc, là, c'est sa mère. Là, c'est un autre type de femme. Et chez Jacques, il y aura toujours sa mère et les autres femmes, oui.
Il y a une autre notion qui est importante chez Jacques Brel, c'est celle... du rendez-vous, de la fin du voyage, de la mort. Donc il y a même une chanson, La mort. Et vous, France Brel, vous dites que l'idée de l'ennui et de mort sont très proches pour lui.
Oui, pour lui, l'ennui, c'est la mort. Puisqu'il doit toujours sentir qu'il est en vie. Je crois que... Alors bien sûr, j'ai pas envie de faire de la psychologie de magazine, mais c'est vrai que sa mère, qui avait perdu les jumeaux en Afrique, mon père, j'ai pas dit que c'était l'enfant réparateur, mais enfin quand même, quand il y a des jumeaux qui disparaissent et que tout d'un coup, il y a deux enfants qui viennent après, le parfum de la mort et de la tristesse continue à planer. Et je pense que mon père a dû se dire très rapidement « je vais faire rire ma mère ». Et donc il a développé des tas de choses pour la faire rire, ils se déguisaient ensemble, ils s'entendaient très très bien, mais que voilà. Et il savait très très bien que quand il arrivait chez sa mère, eh bien il allait un petit peu la secouer en disant « allez, mets ton manteau, mets ton chapeau, allez on va faire des courses, allez va chez le coiffeur, allez bouge-toi, il va se passer quelque chose ». Et Jacques était un moteur pour cela. Et donc il ne voulait pas tomber dans la facilité de l'ennui et de la routine, parce que pour lui, effectivement, c'était trop associé à des choses douloureuses qui rappelaient sans doute des choses de l'enfance.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs,
fièvre. Partir, personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure. Aimer, même trop, même mal.
Le problème qu'il avait par rapport à son père bourgeois, par rapport à cette anecdote donc de ce père qui l'a emmené à 13-14 ans dans un bureau en lui disant « c'est ici que tu vas passer ta vie », c'est quelque chose qui l'a consterné, il a dit « ça je peux pas, c'est pas vrai ». Et là il a commencé à réclamer ce qu'il appelait le droit de rêver. Et le droit de rêver, ça a été la constante absolue, non seulement dans son œuvre, que ce soit dans ses chansons, dans ses films, et particulièrement dans les films qu'il a réalisés, mais aussi dans sa vie. Quand il a quitté la chanson, c'était en réclamant le droit de rêver encore. Et il a fait la comédie musicale, puis il a fait le cinéma, et puis il a fait de l'aviation, puis il a fait du bateau. Il a voyagé, ce qu'il avait fait avant, mais dans un contexte professionnel. Et le droit de rêver, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qu'il disait, il dit... Il avait une phrase, il y a près de Bruxelles une petite agglomération qui s'appelle Vilvoorde, et il disait pour quelqu'un, c'est un petit n'importe quoi, Vilvoorde, comme il y en a un peu partout, et il disait pour quelqu'un qui habite à Vilvoorde et qui veut partir à Hong Kong, la difficulté, ce n'est pas d'aller à Hong Kong, la difficulté, c'est de quitter Vilvoorde. Et cette phrase-là, pour moi, elle résume totalement Jacques Brel. C'était ça. Il faut rêver et il faut réaliser ses rêves. Il a fait on lui avait demandé en radio de faire une lettre de vœux pour les auditeurs. Et c'est ce qu'il a commencé par ça. Je vous souhaite de rêver, d'avoir des rêves à n'en plus finir et d'en réaliser quelques-uns. C'était le résumé de cette lettre. Et tout Brel est là-dedans.
L'important, c'est de faire les choses. C'est d'aller voir. C'est de le faire. C'est de pas dire, tiens, eh bien l'année prochaine, si j'ai un peu de temps, je vais faire, et moi j'aimerais bien faire, et il y a 3 ans que je pense à un bouquin, et je vais peut-être... Non, l'important c'est de faire la chose, c'est d'aller voir. L'important c'est de se mettre au pied du mur. Et alors si on a mal calculé son élan, si on se heurte au mur et qu'on se casse la tête, il faut pas insulter les gens, c'est qu'on s'est cassé la gueule, on se trompe soi. Il n'y a que finalement les gens totalement immobiles et qui ne font jamais rien, qui arrive à traverser la vie en disant que tous les autres sont cons. Ou à peu près. Dès qu'on fait les choses, on devient d'une humilité fantastique. Dès qu'on va voir, on a vraiment peur.
Et j'ai connu Brel...
Serge Lama.
Une seule fois, c'est... Je chantais au Don Camillo, puis il y avait une boîte de nuit qui était juste à côté, c'était pendant l'Homme de la Manche, donc 68 ou 69, je ne sais plus. J'étais dans tous mes états, je voyais Brel qui était là... Je ne savais plus comment me comporter, comme s'il fallait que je me comporte, déjà. Comme si ce n'était pas un homme normal, quoi. Et puis je me suis levé pour sortir, finalement. Je me suis levé pour sortir, et là, il s'est levé direct. Il m'a barré le chemin, et il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais. Alors moi, je ne savais pas quoi lui répondre. Je lui ai dit, je sais que l'homme de la Manche, que ça représente pour vous, il me dit, vous savez, beaucoup de travail... Et il y avait beaucoup d'amertume dans cette réponse. Et c'est un aspect de Brel aussi, l'avant et l'après. L'avant réussite, c'est un Brel joyeux, un Brel qui déconne avec ses copains dans les cabarets, dans tout ça. Et tous les témoignages que j'ai d'après de gens qui l'ont connu de près, c'est un Brel presque aigri. Son rêve, c'était d'être Vasco de Gama, il le dit dans des chansons, il aurait voulu être un grand aventurier, il aurait voulu être un conquérant, quelqu'un qui offre des terres neuves à des hommes neufs. Et puis, il était un chanteur qui chantait sur scène, et je pense que c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait ce qu'il voulait faire.
Je m'appelle Zangara et je suis lieutenant au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois.
On avait un roman en commun, c'était pas donné le mot, hein, mais j'ai su ça à la télévision un jour, c'était le désert des Tartares de Buzzati, qui est un pur chef-d'œuvre et qui est aussi un roman sur l'attente, sur le temps qui ne passe pas, sur l'impossibilité d'arriver à atteindre ses rêves. Comme il dit, trop vieux général, j'ai quitté Bellanzio qui domine la plaine et l'ennemi est là. Je ne serai pas héros. Et oui, si vous le dites sans chanter comme ça, c'est terrible. Parce que je ne serai pas héros, ça veut dire, on dirait que Brel dit, voyez, je chante, je fais tout ça, je suis en vedette, je fais un succès formidable, vous m'aimez, vous m'adorez, vous m'adulez, mais je ne serai pas héros. Je ne serai pas héros. Et ça, je crois que c'est profondément Brel, ça.
Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écartonner, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Et vous pensez qu'il a fini par trouver la paix avec Brel?
Je crois qu'il n'a pas trouvé la paix, non. Non, non. Mais je pense que la paix lui faisait peur. Parce que la paix peut représenter un synonyme à l'ennui.
Dans ses chansons, l'eau, la pluie, la mer reviennent souvent. Et c'est auprès de la mer, justement, qu'il a souhaité s'isoler. La mer, M-E-R.
Mais en fait, quand mon père part, je pars avec lui, on ne sait pas du tout qu'il ne va pas revenir. Il est blessé parce que son film Le Far West n'a pas du tout été bien accueilli par la critique. Il est meurtri, il est blessé à vif, il veut prendre du temps, du recul, et il décide d'acheter un bateau et de faire le tour du monde pendant 3 ans. Il me demande de partir avec lui pendant ces 3 ans. J'accepte. Et donc, mon père ne part pas pour ne pas revenir. Il part pour souffler. Mais la vie en décide autrement. Et là, il y a un élément très important qui arrive, c'est le décès de Jojo. Et le deuxième élément, très peu de temps après, c'est la maladie de Jacques. Et là, ça change plein de choses. Et donc, il va décider de ne pas rentrer. Mais c'est très contradictoire parce qu'en fait, avec des témoignages, après, par la suite, on se rend compte qu'il voulait quand même revenir. Il y a un verbe qui est très, très, très important dans la vie et l'œuvre de mon père, c'est le verbe attendre. Il déteste attendre. Quand on regarde bien ses textes, il est toujours, c'est le temps de, c'est attendre, c'est des rendez-vous qui sont manqués. Il ne supporte pas attendre. Parce que attendre, c'est comme la mort, c'est comme l'ennui. C'est l'inverse de vivre. Et pourtant, il a attendu une chose. C'est qu'au moment où on diagnostique son cancer, il a commencé à attendre la mort. Mais elle ne venait pas. Alors, il a peut-être voulu revenir. Et au moment où il décide de revenir, il meurt. C'est ça la vie.
C'était Jacques Brel, L'inaccessible étoile. Avec France Brel, Jean-Marie Favier, Simone Langlois, Serge Lama et Eddie Pchibilski. Archivina, extrait d'entretien avec Dominique Arban, France Culture, 1967. Et radioscopie de Jacques Chancel, 1973. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Lénora Krief et François Teste.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour et passion par Pascaline Bonnet et Juliette Testa.